Mesdames et messieurs, au Capi Service, nous sommes en direct de l'Université de Bounia, dans la province de l'Itourie, le maximum de bruit. Bienvenue à tous. Merci de nous écouter partout à travers la République, même en dehors de nos frontières. Bienvenue dans cette émission. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de la pacification dans la province de l'Itourie, qui connaît un cycle interminable de violences depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer la paix dans cette province meurtrie? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous avons en ces lieux M. Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Itourie. Je vous demande de l'applaudir très très fort. M. Dieudonné Lossa. Nous avons également en ces lieux M. Jean-Marc Mazio, PCA de l'ONG Mwangaza Peace. Est-ce qu'on peut l'encourager par nos applaudissements? Et applaudissez pour vous-même!
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service, jeudi Daniel Kachama.
Okapi. La province de l'Itourie connaît un cycle interminable de violences depuis 1999 avec la présence des divers groupes armés. Après une paix relative de quelques années, les conflits ont repris de plus belle en 2017. Avec la milice Codeco, d'autres groupes à tendance communautaire, dont le FPIC, Zaïre, Maïmaï, Chini, Yakidima et autres ont vu le jour sous prétexte de se défendre contre d'autres milices. À cela s'ajoutent les EDF, les ADF très actifs dans les territoires d'Irumu et de Mambasa. Des centaines de civils sont tués et plusieurs villages sont vidés de leurs habitants, des biens sont pillés, des maisons et véhicules incendiés. Malgré les efforts du gouvernement et des partenaires pour restaurer la paix et l'autorité de l'État, l'insécurité persiste dans plusieurs localités. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui pour restaurer la paix durable dans la province de l'Itourie? Monsieur Dieudonné Lossa, vous êtes coordonnateur de la société civile. Merci de prendre le micro. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Alors, la première question que je vous adresse, Monsieur Dieudonné, quelles sont les causes des conflits armés dans la province de l'Itourie?
Merci beaucoup pour nous avoir adressé cette question. Je pense que si nous vivons sous les sécurités en Itourie, c'est tout simplement parce qu'on ne sent pas la présence de l'État. On ne peut pas imaginer que depuis 2017 à nos jours, la paisible population est tuée jour et nuit, les biens matériels sont incendiés, les maisons, les champs, les cultures sont détruites, l'élevage. Et ça réduit toute la population à se retrouver au sein des sites de déplacés. Je crois que ça, c'est ce qui témoigne tout simplement que l'État n'agit pas en Itourie. Et on ne peut pas se voiler la face de dire que l'État n'est même pas en Itourie. Comment on peut expliquer que côté la population jusqu'au site des déplacés? Comment on peut expliquer que les groupes armés naissent tous les jours, bien que nous sommes même sous l'état de siège? Voilà 25 mois, nous sommes sous l'état de siège, mais les groupes armés continuent à naître. Je pense que c'est à très autre pour dire que l'État n'agit pas en Itourie ou bien l'État n'existe pas en Itourie.
Selon vous, la cause principale, c'est l'absence de l'autorité
de l'État. C'est l'absence de l'autorité de l'État.
Et quelles sont les autres causes de ces conflits? Parce qu'il semble que ces groupes naissent, ils disent que c'est pour protéger leur communauté contre les agressions, les attaques des autres.
Mais c'est la mission de l'État de protéger la population et c'est bien. Je ne pense pas qu'une population peut se constituer à être protecteur d'une autre population. C'est la mission régalienne même de l'État. C'est ce qu'on appelle l'État, protéger la population et ses biens. Si l'État n'est pas à mesure de le faire, est-ce que l'État existe?
Bien, Monsieur Jean-Marc Mazio, vous êtes le PCA de l'ONG Mwangaza Peace et vous avez travaillé avant comme chargé de mission du programme Starec dans la province orientale de Membré. Bonjour.
Bonjour.
Alors, d'après vous, est-ce qu'il y a d'autres raisons à la base de ces conflits armés en Ituri?
Ok, je pense que mon prédécesseur a parlé de choses importantes. Mais moi, je vais tout simplement ajouter que l'Ituri n'a pas tiré des leçons, des événements historiques tragiques depuis plusieurs années. Nous parlons aujourd'hui des événements qui remontent de 2017, mais je voudrais plutôt que nous puissions aller plus loin que ça. Déjà en 2012, au niveau des instances, des espaces peace building, au niveau international, au niveau de la sous-région, l'Ituri était considéré comme un modèle de pacification. Parce que l'expérience de 1999 était quand même un antécédent impressionnant par rapport à la capacité de l'Ituri de pouvoir trouver des solutions pour des problèmes tragiques au niveau local. Malheureusement, ces efforts n'ont pas été pérennisés. C'est ce qui fait qu'il y a ces cycles-là. Deuxième élément, c'est que les acteurs principaux des conflits n'ont pas facilité la paix. Donc, dans tout ce qu'on fait en termes d'initiatives de paix, on sent que les acteurs principaux n'arrivent pas à jouer, à démontrer un agenda clair par rapport à la sortie de la crise.
Qui sont-ils ces acteurs principaux?
S'il s'agit aujourd'hui de parler de conflits armés, nous avons d'abord les gouvernements et nous avons aussi les groupes armés. Comme vous le savez, les questions des groupes armés sont des questions politiques, sont des questions de souveraineté. Je crois que, quand bien même il y a des complicités des communautés, mais c'est quand même important, les groupes armés, les leaders des groupes armés et les responsables, les décideurs puissent quand même manifester un agenda assez acceptable pour la sortie des crises.
Donc vous voulez dire qu'il y a des agendas cachés?
Bon, quand j'ai dit agenda de sortie pour la paix, ne signifie pas seulement agenda caché, mais ça signifie une volonté politique. Ça signifie une disponibilité de pouvoir prendre une décision. Aujourd'hui, nous voulons changer la page. Je donne un exemple pour les acteurs, par exemple, des groupes armés. C'est seulement une question de dire, aujourd'hui, je m'engage et je m'engage sérieusement. Donc, il s'agit de respect des engagements.
Mais est-ce qu'on connaît au moins les vraies revendications de ces groupes armés?
Voilà, on peut parler des revendications, mais l'essentiel, c'est la paix. L'essentiel, c'est la paix. Là, je peux aussi vous dire, même si aujourd'hui on arrive à désarmer les groupes armés, mais il y aura toujours des problèmes, les revendications seront toujours là. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudra que les gens arrivent à prioriser la paix pour dire que non, écoutez, en dépit de nos problèmes, en dépit des problèmes de frustration, mais la paix vaut mieux que ce que nous pouvons faire.
Monsieur Dieudonné Lossa, on parle des revendications, pour certains, c'est des problèmes des limites des villages, des champs, etc. Quelles sont les vraies revendications de ces groupes armés?
Moi, je ne vois nulle part les revendications qui peut justifier le massacre sur la population civile en Ituri. Je l'ai dit tantôt, c'est à l'État aussi de régler des problèmes de limites s'il existait. Et si on n'a pas su, l'État n'a pas su régler ces problèmes de limites, qui d'autre pouvait le faire?
Et cela ne donne pas... Donc cela veut dire qu'il y a eu des problèmes de limites des villages.
Cela ne donne pas... Oui, j'ai pris les mots que vous-même vous avez prononcés. J'ai apprêté ces mots de chez vous-même.
Oui. S'il y a le problème des limites qui s'est posé, c'est l'État aussi qui devait, n'est-ce pas, régler ces problèmes. Ce n'est pas à la population de régler elle-même ces problèmes.
Voilà, ce n'est pas à la population de régler le problème. Au Capi Service, nous sommes en direct de l'Université de Bounia. Nous parlons de la pacification. Y a-t-il déjà des questions dans la salle ou des personnes qui veulent contribuer? Oui, bonjour, merci de donner votre nom et puis poser directement la question.
Merci, je réponds au nom d'Isaac Djakissa. Je suis intervenant de temps en temps à la radio Okapi. En fait, merci. J'ai suivi religieusement, Dieu donné l'osa qui vient d'expliquer un peu les différentes causes. Mais j'ai quand même quelque chose que je dois retirer. Quand il parle de l'absence de l'étang, en fait, il est un peu très fort. Oui, il y a la négligence de l'étang, on peut comprendre de ce sens-là. Qu'est-ce que je veux dire? Ituri, la paix en Ituri, c'est syllogisme pour dire la paix commence par moi, la paix commence par toi, et la paix commence par nous. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un problème qui manque, la mentalité qui manque sur la tête d'un Iturien. Un Iturien ne sait pas qui il est, et ce qui fait aujourd'hui, il y a l'insécurité. Si Iturien reconnaît que moi je suis Iturien, je suis une personne, aujourd'hui nous ne pouvons pas avoir la présence de l'insécurité. Que voulais-je dire? Nous rentrons par exemple, je donne un exemple ici à Iturien, Piton, qui est la ville de Bounia. Je n'ai jamais entendu qu'un groupe armé est né ici en ville de Bounia. Mais ces groupes armés sont toujours à l'extérieur, soit en Djougou, soit je ne sais pas n'importe où. C'est pour dire que la manipulation existe. Et cette manipulation ne vise pas ceux qui sont ici. Parce qu'ici, il s'agit des gens qui sont intellectuels. Ils visent justement là où, à l'intérieur, par exemple, de l'Ituri, dans de Djougou et par-ci, par-ça. Et c'est pour dire que...
Ça veut dire qu'il y a des manipulateurs qui créent des groupes là-bas pour exploiter de l'or en Djougou, par exemple.
Exactement, j'affirme ça. Pourquoi? Il a parlé de l'absence de l'État. C'est même l'État-là, le gouvernement, permettez-moi de le dire, qui sont là pour manipuler ces jeunes, les gens qui n'ont pas étudié, et pour juste créer de l'insécurité. On a posé la question, quelles sont les causes? Pourquoi ces groupes-là revendiquent? Aucune réponse n'était sortie. Donc, il n'y a pas une revendication.
Donc, il n'y a pas de revendication claire. Pourquoi ces groupes existent alors?
Alors, je sais, c'est ça ce que je suis en train de dire. Cette revendication, cette manipulation, c'est dans les gants de qui? De ces gouvernements, de ces états. Et ces gens-là, ces autorités qui sont par exemple, je vous dis, il y a des groupes armés en cravate. Qui sont ces gens-là? Ils sont là. Et ils sont en train de manipuler juste la population qui sont de la population innocente.
D'accord. Donc, merci. Est-ce que vous avez des questions à adresser aux intervenants qui sont là?
Oui, oui. Alors, je devrais donner plus de solutions. Qu'est-ce qui peut cesser?
Voilà, vous. Quelles sont les pistes de solutions pour arriver à la paix?
J'ai dit noir sur blanc que les manipulateurs qui sont là en cravate, qu'ils cessent de manipuler la population. Qu'ils cessent et où nous aurons la paix en Ituri. Nous aurons la paix en Ituri et nous allons évoluer sans qu'il fait. Moi, j'ai étudié. Mais pourquoi je ne voulais pas? Parce que ces gens sont en train de manipuler, non? Non, villageois, et en fait, pour déstabiliser les gens. C'est ce qui n'est pas bon.
Donc, bien, merci monsieur.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Que les manipulateurs arrêtent ce qu'ils font et la paix sera restaurée en Ituri. Bonjour monsieur.
Voilà. Bonjour à l'auditoire. Je suis Patrick Ndibou, étudiant en faculté des droits L1, L1-2.
Quelle est votre question, Patrick?
Avant que je débute avec ma question, j'aimerais d'abord faire une remarque, laquelle cette émission devrait avoir la présence soit des répondants du gouvernement provincial, parce que devant là, je ne vois que la société civile, je vois que les ONG. Au moment où cette émission se passe à quelques mètres du gouvernorat, le lieutenant Jules devrait être là pour répondre aux questions des gens. Voilà. S'il faut maintenant aborder à bras le corps cette question, je dirais quant à moi que, vous savez, les problèmes de l'Ituri aujourd'hui, même le président de la République lui-même ne comprend plus rien sur la province de l'Ituri. Parce que vous allez voir toutes les dispositions prises depuis son accession au pouvoir sont dirigées pour une paix durable. Mais il s'est rendu compte qu'il est devant les gens qui ne disent pas vrai ce qu'ils cherchent. Récemment, il y a eu deux missions du Premier ministre en avril 2022, septembre 2022. Il est venu, il a fait l'évaluation de l'état de siège. Et cette évaluation, M. Diédoné Lossa, il est là, il a été reçu par le Premier ministre. Il a donné, il a fait sa part de ce que devrait être l'après-Premier ministre. Mais jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement reste calme. Parce que pourquoi? Il s'est rendu compte qu'il est devant les gens qui demandent quelque chose de son contraire. Avant que Luboya arrive, le lieutenant Luboya arrive, ce sont les Ituriens eux-mêmes qui ont demandé l'instauration de l'état de siège. Après l'instauration de l'état de siège...
Eux-mêmes sont contre l'état de siège.
Monsieur, j'arrive. Ils ont demandé l'état de siège. Avant, ils ont demandé l'état de siège. Ce qui a poussé au gouvernement de décréter l'état de siège.
Oui. Et après, ils ont changé.
Après, aujourd'hui, là, ils demandent qu'on lève l'état de siège. Au moment où les tueries continuent. Comment vous avez demandé l'état de siège au moment où il y avait la tuerie et aujourd'hui vous demandez qu'on lève l'état de siège? Sur quelle base d'argument?
Alors, Patrick, dites-nous, quelles sont les solutions aujourd'hui pour arriver à la paix durable en Ituri?
Voilà.
Selon vous.
Les solutions, quant à moi, je partage l'avis qu'a soulevé un frère de Gracias Mungamuz qui a dit qu'aujourd'hui, Ituri... Vous voyez les associations du genre communautaire, je ne vais pas citer les noms ici parce que je ne sais pas je suis dans quelle salle. Il faut suspendre toutes les associations à caractère communautaire. Parce que aujourd'hui, les tueries sont sur base des propos d'une communauté. Oh non, la communauté Patrick a dit ça. La communauté Mutombo a dit ça. L'association liée à Ndibo a dit ça. Donc lorsque une communauté ou peut-être une association à caractère communautaire dit quelque chose, vous êtes tous des Ituriens. Mais vous allez vous rendre compte que vous vous tuez entre vous. Vous cherchez quoi au moment où, aujourd'hui, les autres provinces évoluent? Il y a eu un massacre au Kassai en 2017-2016. Aujourd'hui, les gens sont calmes.
Mais pourquoi? Avec les Kamouina-Sapou.
Les Kamouina-Sapou. Aujourd'hui, les gens sont calmes. Mais pourquoi, à Ituri, les massacres ne finissent pas? Moi, je pense
donc,
que
c'est massacre. D'après vous, la solution, on doit interdire les associations
on
à caractère...
On doit suspendre toutes les associations à caractère communautaire. Ça, c'est mon point de vue. Merci.
D'accord, merci. Le suivant...
Bonjour à tous.
Bonjour monsieur.
Devant vous, c'est l'étudiant Ilery Botombe. Bon, moi, ma suggestion, je vais me poser juste à l'homme, parce que si l'autorité de l'état civil avait dit qu'il y a les capacités de l'état, je peux aussi accepter. Pourquoi je peux accepter cela? Par exemple, lorsqu'on parle de l'état, ça veut dire gouverner. Gouverner, ça veut dire anticiper. Et lorsqu'on anticipe, on doit informer les gens. Nous, tels que moi, je suis là, je ne sais réellement, moi, j'étudie les droits, mais je ne connais pas d'abord mes droits. Jusqu'à ce stade.
Vous ne connaissez pas vos droits?
Ouais. Nous, on ne connaît pas nos droits. Et si, par exemple, les députés, les hommes à cravate qui venaient, ils nous parlaient de nos droits, ils nous affichaient comment est-ce qu'on doit être, comment est-ce qu'on doit revendiquer, comment est-ce qu'on doit se comporter dans la société. Tout ça ne devrait pas arriver. Merci, c'est tout.
Merci, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut pour restaurer la paix dans la province de l'Ituri qui fait face à des cycles de violence interminables depuis des années? Bonjour, madame.
Bonjour à tous. C'est l'étudiante Baba Zilali. Baba Zilali, Nathalie, des vétérinaires.
Oui, Nathalie.
Oui. Je suis vraiment beaucoup intéressée par le sujet. Mais ce que je regrette et ce que je déplore, je suis ressortissante du territoire de Ndjougou. À voir tout ce qui s'est passé, parce que le massacre des territoires de Ndjougou n'a pas commencé aujourd'hui. Je suis sortie de là quand j'avais l'âge de 5 ans. C'était en 2003. Je suis venue ici. Mais aujourd'hui, la tuerie continue. Même avant, les gens, on a tiré les gens dans les camps de déplacés à Lala là-bas.
Une quarantaine de personnes, je crois.
46 personnes.
46 personnes, une vingtaine d'enfants.
Oui, oui. Alors, je ne peux pas dire que le gouvernement.
Tolérance, s'il vous plaît. Allez-y, Nathalie. Tolérance, s'il vous plaît.
Je suis sous le choc.
Oui, on comprend son émotion. Je suis vraiment sous le choc. Oui. Silence, chers amis, silence, s'il vous plaît. Calmez-vous, chers amis. Camarade O! Camarade O! Merci, allez-y, Nathalie. On vous écoute. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire?
Vraiment, voyez tout ce qui se passe chez nous. Tout le temps, nous sommes en train d'élire des députés pour nous. Ils sont là pour nous défendre, mais on n'a rien, on n'a rien de changement. Mais je regrette ce que le frère a dit là-bas, à Dizake, vers Kassai, pour le Kamuna Sapui, c'était terminé. Mais chez nous, ce n'est pas la sécurité comme tel qu'on disait. Pourquoi? C'est l'or qui nous tient. Ce sont nos minéraux qui sont là, qui nous tient. Actuellement, même en Djougoul, c'est le pétrole qui nous tient. Alors, je ne peux pas dire que
donc,
c'est...
La vraie raison, c'est l'exploitation.
Oui. Pendant qu'ils sont en train de nous tirer, ils sont en train d'exploiter nos minéraux. C'est pas ça. Merci.
Merci, Nathalie. Bonjour, madame.
Bonjour à tous. Je m'appelle Viviane Carande. Je suis étudiante de L1 économie de développement. Je pense aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une question, mais c'est juste un souci. Parce que pour l'Ituri, on a déjà eu plusieurs pratiques, on a déjà eu plusieurs théories, on a déjà eu des stratégies et des solutions données. Mais mon souci est de savoir qu'est-ce qui empêche maintenant la pratique de ces théories-là, la pratique de toutes solutions qu'on a déjà données à l'Ituri. C'est un peu ça. Parce que
quelle
si
solution
voit...
Il y a eu des dialogues, signature des pactes de paix,
bon,
mais
il y a
qui
des
sont violés aussitôt.
Qui
juste après.
Il y a des dialogues qui se passent, mais je ne sais pas si est-ce que c'est pris, donc c'est pratiqué ici à Ituri. Parce qu'il y a des solutions, on ne peut pas continuer toujours comme ça, chaque jour faire des dialogues, des débats, conférences et tout. Or, l'insécurité continue toujours. L'Ituri, notre province, a beaucoup de potentiel. Parce que si seulement en prenant aujourd'hui l'Ituri, avec la sécurité, bien sûr, on exploite les minéraux que nous avons ici, ça pourra aussi alimenter notre pays et
ça peut développer la province.
Bon, ce n'est pas du tout développé parce que pour le développement, il y aura plusieurs autres facteurs. Alors, c'est un peu ça.
Oui.
Plutôt, on doit lutter pour la sécurité de notre province parce que c'est une province vraiment qui peut alimenter notre pays, qui peut booster l'économie de notre pays. C'est un peu ça mon souci.
Merci madame. On prend la dernière avant de donner la parole aux invités. On a déjà pris 3 hommes, on prend aussi 3 femmes.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
On m'appelle Dougira Pamba Lumière. LD psychologie. Moi, je voulais dire ceci. Pour qu'il y ait la paix en Ituri, c'est d'abord nous-mêmes, nous les Ituriens. Parce que... Oui. Parce qu'une maman, lorsqu'elle fait grandir sa fille, elle ne va pas commencer à quitter, aller encore faire des travaux chez elle, là-bas, chez la fille. C'est nous-mêmes faire l'effort pour grandir notre province, pour qu'il y ait la paix dans notre province. S'il y a peut-être une suggestion, on peut demander de l'aide au gouvernement pour nous aider. Mais l'effort, c'est d'abord nous-mêmes, les Ituriens.
Donc la solution ne viendra que d'ici.
La solution, c'est nous-mêmes, les
c'est
Ituriens.
Nous-mêmes.
S'il y a possibilité, on peut demander seulement de l'aide de l'État. Bien sûr que l'État est là pour nous, mais nous, on est là pour demander seulement de l'aide. Là où on est bloqué, on peut demander de l'aide à l'État.
Merci, madame. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi, c'est Ali Martin. Je suis étudiant à l'Université de Bougna, faculté des sciences, département de la géologie. Je suis à L1, l'Acier Système. Je suis aussi le vice-président des jeunes de la ville de Bougne.
Bienvenue, cher vice-président.
Merci beaucoup. J'ai juste quelques préoccupations pour donner la solution à ce qui concerne ce qui se passe à Ituri. Je pense que tout ce qui se passe à Ituri, c'est lié à la géologie de notre province. Ce sont les minéraux. Si aujourd'hui, vous cartographiez les bastions de ces miliciens, vous trouverez que ça se trouve là où il y a des sites miniers. Là où il y a des sites miniers, vous trouverez que ce sont là les places où les miliciens habitent.
Quels sont les minéraux?
Quels sont les minéraux que nous avons ici à Ituri? Nous avons de l'or, nous avons des coltans, nous avons des tungstènes, nous avons nous avons plusieurs minéraux ici, même des uraniums. Il y en a que nous avons ici à Ituri. À part ça, aujourd'hui, il y a des mains noires qui utilisent les leaders communautaires pour toxiquer les autres à se tuer entre eux. Après ça, ils profitent à exploiter les minéraux pour apporter chez eux. Prenons par exemple l'exemple l'Ouganda. Aujourd'hui, l'Ouganda est le premier producteur de l'or au niveau mondial. Il a quel gisement d'or en Ouganda? Ce sont notre or de l'Ituri qui maintenant ça.
Alors, mon cher vice-président, d'où vous détenez ces éléments-là?
Merci
beaucoup.
Qui a
publié ce rapport disant que l'Ouganda est devenu le premier producteur de l'or?
Si aujourd'hui vous partez au niveau mondial, au marché mondial de l'or, vous trouverez que c'est l'Ouganda qui apporte beaucoup d'or par rapport à nous, les Congolais. Aujourd'hui, au Rwanda, on produit des téléphones, on produit des ordinateurs, on fabrique ici au Rwanda. Où est-ce qu'ils trouvent ces minéraux? Ces minéraux proviennent du Congo, qui est le coltan qu'on utilise avec ça, et on fabrique avec ça les téléphones.
D'accord. Alors, si je comprends bien, le conflit en Ituri est sponsorisé par les pays limitrophes.
Merci beaucoup.
Par les voisins.
Si vous faites vos recherches, vous trouverez que c'est ça. C'est ça la réalité qui se passe à Ituri et au Nord Kivu. C'est des mains noires et l'État, le gouvernement congolais connaît bien ces gens-là. Il connaît bien que c'est tel pays qui est derrière nous. Mais l'État, il voit ça seulement à l'œil nu et il ne fait rien.
Et c'est vrai aussi que les ADF opèrent aussi de ce côté vers
aujourd'hui,
Irumu.
Vous voyez à Irumu, partez à Njugu et quelques parties de Magi. Pourquoi aujourd'hui d'autres parties de l'Ituri ne sont pas embrouillées? C'est parce qu'il n'y a pas de l'or, il n'y a pas de minéraux là-bas qu'ils peuvent profiter. C'est pourquoi ils n'ont pas de main noire pour mettre derrière les leaders communautaires.
Alors, est-ce que vous avez des questions à adresser aux invités?
J'ai juste quelques recommandations.
Oui.
La première recommandation que je dois faire est que le gouvernement doit réglementer le secteur minier. Le gouvernement doit réglementer. Il y a des codes miniers que nous en avons, mais qui ne sont pas mis en application. Le gouvernement doit les mettre en application. Et deuxième recommandation que je dois donner au gouvernement, le gouvernement national et provincial doivent prendre sa responsabilité en main. Il y a un général qui m'avait dit un jour, si vous voyez l'insécurité persiste dans un milieu, sache que les agents de sécurité sont déjà dans ces corps. Alors, nous disons ceci.
Ça ne vous engage que vous-même.
Oui, nous disons ceci. Nos agents de sécurité doivent honorer notre pays. Ils se sont engagés pour sécuriser le pays.
Merci.
Alors, ils doivent prendre leur responsabilité.
Merci, cher vice-président. Est-ce qu'on peut l'encourager?
Bonjour, chef. Monsieur les journalistes, appelez-moi Regen Batu, étudiant à LRLMD, sciences de l'information et de la communication. Je porte cette casquette de défenseur des droits de la femme au sein du Parlement d'Afa de l'Ituri. Aujourd'hui, nous parlons de cela, mais cela fait rage. Bon, je ne vais pas parler de ce qui a commencé avant que nous soyons nés, et je commence dès 2017. Nous traversons des moments difficiles en province de l'Ituri, qui ne cessent jamais de prendre fin. On a commencé avec l'état où les civils dirigeaient la province. Présentement, il y a l'état de siège. Sous l'état de siège, il y a les règnes de la société civile. Alors, je me demande, la société civile qui dit tous les jours que l'état de siège ne fait rien, quel est son apport personnellement dans ce que fait l'état de siège? Et s'il a un apport, aujourd'hui, au même moment que le gouvernement de l'état de siège fort de dialogue intercommunautaire, à peine terminé dialogue intercommunautaire, voilà à la chose à où il y a écrition des codeco dans les sites de Lala où on a massacré plus de vingtaines d'enfants et qui a fait des vingtaines de personnes majeures. Alors je me demande, les innocents de ces enfants de sang versé, à quoi ça sert utile de célébrer la journée du 16? Pourtant, on continue à souffrir. On parle des journées de l'enfant africain pour rien. S'il n'y a pas la paix, on va plus demander au gouvernement, faites ceci, comme la dame a dit, demander l'apport du gouvernement, mais nous allons obliger le gouvernement, parce que quand les papas n'achètent pas les babouches, la femme pleure et fuit même la maison, les babouches viendront. Merci.
Merci. Bien. Alors, on va... Pardon?
On prend un élève.
On prend un élève, d'accord, allez-y. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Allez-y.
Je réponds au nom de Bochinda Oyaki Angèle. J'étudie au complexe scolaire Fabien. Je suis en 7e année.
Ok. Quelle est ta préoccupation?
J'ai une question pour le gouvernement. Je voudrais demander quels sont les mécanismes que le gouvernement a pris pour les enfants qui sont déplacés, parce que nous voyons quand on a tué des gens au camp des réfugiés là-bas, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour ces enfants pour qu'ils se sentent bien, parce que les enfants sont malnutris, ils ne sont pas bien nourris, la scolarité et tout ça, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour que ces problèmes soient rétablis?
Merci beaucoup, merci de l'encourager. Bien, on revient ici, je donne la parole à monsieur Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri.
Merci beaucoup. Nous remercions tous ceux-là qui ont pris le micro.
Merci de rapprocher le micro de la bouche.
Qui ont eu le courage de prendre la parole. Les uns pour juste faire des observations, mais aussi il y en a qui ont posé des questions. Par rapport au premier intervenant, dont je n'ai pas vraiment bien retenu le nom, et il n'a pas posé vraiment de questions à mon sens.
Oui, certains n'ont pas posé de questions, ils ont donné leurs avis.
Et quelque part, ce qu'il a dit m'a intéressé, c'est que la souffrance, le massacre de l'Ituri, les tueries, sont dits aux manipulateurs. Moi, je m'attendais à ce qu'il cite même le nom de ces manipulateurs, parce que ça pouvait beaucoup aider notre pays.
Il a dit qu'ils sont souvent habillés en cravate.
On les dit souvent. On a cessé d'apprendre cela. C'est depuis 2017 qu'on nous parle des manipulateurs, qu'on nous parle des codeco à cravate. Je ne sais pas de mains noires, mais ces mains noires-là, pourquoi on ne sait pas les doigter? Pourquoi on ne les présente pas devant la justice? Tant que nous allons encore parler de mains noires sans les dénicher, je crois que nous ne sommes pas prêts pour avoir cette paix-là. Donc, je vais encore demander...
Il faut les citer d'après vous.
Voilà, c'est ça. Il faut qu'on arrive à citer tous ces gens-là qui sont censés manipuler nos frères, nos jeunes frères, et qui endeuillent la province de l'Ituri. Monsieur Patrick, il a dit qu'il est étudiant à la faculté des droits. Merci, monsieur Patrick, pour votre question.
Et il ne connaît pas ses droits.
Mais non, non.
C'est pas lui.
Moins, ce n'est pas lui.
Ah non, lui, d'accord, lui connaît ses droits.
Lui connaît ses droits.
Ok.
Mais moi, je croyais que monsieur Patrick... Vous êtes à quelle promotion? Je crois que vous connaissez la constitution de notre pays. En tant qu'étudiant à L1, vous connaissez la constitution de notre pays. L'état de siège à province de l'Ituri et au Nord Kivu est une mesure exceptionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui est venu du hasard, mais il trouve aussi, n'est-ce pas, son fondement dans notre Constitution. Et la Constitution définit et délimite l'état de siège dans le temps et dans l'espace. Nous sommes 25 mois depuis qu'on a instauré l'état de siège dans les deux provinces. Et l'état de siège va remplacer alors le gouvernement dans ces deux provinces. Je crois que attaque scientifique, attaque étudiant, vous devez être là pour éclairer la population, mais ne pas l'induire en erreur. La population a demandé l'état de siège ou bien la population avait demandé sa sécurité. La population a demandé sa sécurité. L'État congolais a jugé utile de passer à travers l'état de siège pour instaurer la sécurité en Ituri. Je le répète, nous sommes 25 mois aujourd'hui depuis qu'on a décrété l'état de siège. Et ce matin, on a tué 3 personnes. Ce matin, Codeco venait à cause de tuer 3 personnes. Pour votre information, c'est pour dire que l'état de siège est là, mais la réponse qu'on devait avoir avec l'état de siège pendant 25 ans, on n'en a pas. La Constitution dit 30 jours, mais renouvelable pour 15 jours. Nous sommes 25 mois. Comprenez que la réponse pour la
vous voulez dire que le bilan,
pas dans l'état de siège.
Monsieur Dieudonné, vous voulez dire que le bilan de l'état de siège est mitigé,
Tout le monde le connaît. Il n'y a pas à se voiler la face. Ça n'a pas marché avec l'état de siège. Madame Nathalie, étudiante Nathalie, a donné aussi des réponses par rapport à ce qui peut justifier la persistance des mouvements armés en Ituri.
C'est l'exploitation minière.
Effectivement, les groupes armés, vous les trouverez toujours dans les sites miniers. Ils sont vraiment autour des carrés miniers et c'est même de là peut-être qu'ils tirent des fonds pour leur
armement,
entretien. Et aussi.
Donc on peut dire que la vraie raison du conflit en Ituri, c'est l'exploitation minière.
Je ne dis pas que c'est exclusivement la raison, mais je crois que ça peut aussi justifier la persistance des groupes armés en Ituri. Madame Viviane a dit qu'il y a eu plusieurs accords, plusieurs rencontres, des dialogues. Effectivement, madame, vous avez raison. Le 6 juin, on nous a présenté le protocole signé par 4 mouvements armés de l'Ituri au gouvernorat. Mais même les 6, les jours où on présentait ces protocoles, il y avait des gens qu'on a tués. Ces jours-là, déjà, on a enterré les gens qu'on avait tués.
Et c'était quoi, un sabotage?
Moi, je ne sais pas dire que c'était sabotage, mais je connais au moins que depuis tout le temps, ces accords sont signés, les protocoles sont signés, les actes de cessation sont signés, mais au même moment aussi l'acte de cessation, au même moment on tue les gens à côté et l'État congolais ne fait rien, quelqu'un l'a dit aussi ici parmi nous. L'État congolais est là, moi j'ai dit j'arrête de tuer, mais je continue à tuer normalement et l'État aussi ne m'inquiète pas. Donc c'est ça ce qu'on a vécu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu après l'accord de Nairobi 3? Les groupes armés sont revenus, ils ont continué à tirer normalement. Je me dis, s'il n'y a pas un encadrement, s'il n'y a pas de mécanisme de suivi pour tous ces accords, madame, comme vous avez dit, il n'y aura pas de résultat. Vous n'avez pas tort, vous avez totalement raison. Et là, ça revient encore à l'État de suivre tout ce que les gens disent pour arriver à une paix.
Mais si ces miliciens se confondent dans la population, l'État aura parfois difficile.
Encore quelque chose que je n'encourage pas, je n'admets pas cela. L'État a tout le moyen. L'État a les services de sécurité, de renseignement. Ces services font quoi? pour ne pas identifier ce genre-là qui se cache dans la population. Si on sait qu'il se cache dans la population, c'est qu'on peut les identifier dans la population. Mais l'État est capable d'identifier ces gens-là dans la population. Et comment on peut dire qu'ils sont cachés dans la population, ils sont appelés, ils sont autorisés à tuer? Je n'encourage pas cela.
D'accord. Monsieur Jean-Marc Maz.
Il y a encore des questions.
Oui, oui, on va revenir à vous. C'est le temps de vous reposer un peu, monsieur Jean-Marc. Vous n'êtes pas encore fatigué.
Ok.
D'accord.
Ok, merci beaucoup. Je vais continuer pour dire persistance des violences. Les Ituriens ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et aujourd'hui, on demande X, demain Y. Mais je voulais tout simplement donner une réflexion. C'est tout à fait normal. Quand la souffrance persiste, atteint un niveau inquiétant, ça bouge les comportements. Nous sommes dans l'Itourie qui a subi un cycle de violence qui a trop duré. Aujourd'hui, vous essayez un peu de suivre la radio, même les débats ici, vous sentez quand même il y a des germes de traumatisme. Quand vous essayez un peu de suivre les réseaux sociaux, vous voyez les images, je crois que ça bouge quelque chose dans la tête des gens. C'est tout à fait normal. Devant une situation d'une maladie qui persiste, vous allez dans une clinique, il n'y a pas la solution, vous finirez par contacter les médecins, je ne sais pas, les pasteurs, et enfin, vous serez chez un féticheur. Donc, nous avons atteint ce niveau-là. Nous avons atteint ce niveau, le niveau d'inconstance. Des fois, on est dans les dialogues, mais on n'est pas satisfait. Il faut les opérations, il faut ceci ou cela. C'est tout à fait normal, parce que la population cherche la paix et une paix immédiate. Autre chose, c'est que les communautés qui sont instrumentalisées, voilà, vous le dites, ce n'est pas moi. Vous dites que les communautés contribuent à ceci ou cela. Mais moi, je ne pense pas qu'on va suspendre
les associations à caractère communautaire.
Non, je ne pense pas. Ces structures ont un rôle à jouer. Ont un rôle à jouer. En dehors de la pacification, il y a d'autres bonnes choses que les structures amènent dans la communauté ou dans la société. Quand j'ai parlé de l'agenda de paix, peut-être il faut aller dans la vision collective de paix. Est-ce que ce que nous faisons au niveau des structures contribue à la restauration de la paix? Le problème, pour moi, ce n'est pas suspension des structures ou suppression, mais c'est plutôt le rôle que doivent jouer ces structures dans cette période tragique.
Mais si chaque communauté a sa milice, vous ne voyez pas que ça devient compliqué?
Voilà.
Et chaque milice est soutenue par une communauté.
Vous voyez, question des milices aujourd'hui, c'est le centre de toutes les typologies de conflits. Aujourd'hui, on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler des terres, ressources naturelles, et ainsi de suite. D'ailleurs, vous vous limitez seulement des minéraux, vous parlez des minéraux, mais pourquoi vous n'avez pas parlé des forêts? Pourquoi vous ne parlez pas de cacao? Il y a toujours des attaques à Irumu ici, il y a toujours des attaques des IDF lorsqu'il y a...
C'est le temps de la récolte.
Voilà. Donc ce sont des choses importantes que nous devons évoquer. Mais je voulais tout simplement dire...
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'il y a la main noire, les pays étrangers, l'Ouganda et le Rwanda qui
C'est ce que nous avons dit, nous n'avons pas tiré de leçons. Nous n'avons pas tiré de leçons. Nous avons été utilisés et les gens ont exploité. D'ailleurs, à l'époque, je crois qu'il y a des jeunes ici, peut-être que vous n'étiez pas là. À l'époque, l'aéroport de Bunia n'était pas comme ça. Aujourd'hui, nous avons des difficultés même pour amener des matériaux pour l'asphaltage de Bounia. Mais il y avait des réserves là-bas. Il y avait des réserves de matériaux là-bas. À 1999, 2000, 2001, il y a eu des pillages systématiques. Est-ce que nous avons tiré des leçons? Nous avons tiré des leçons des bons moments de l'Ituri et nous avons aussi évalué le risque de violence que nous alimentons. Voilà, moi je pense que la discussion doit rester à ce niveau-là. Les dividendes de paix, les conséquences des violences. Sinon, nous allons toujours condamner les uns et les autres. Je vais chuter en disant que...
J'ai suivi une dame qui a dit que, disons, l'Ituri, avec toutes les ressources qu'il y a ici, on peut soutenir l'économie nationale. Et ça peut contribuer au développement de la province, bien qu'elle dit qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut intégrer.
Oui, mais écoutez, c'est ce que nous oublions. Si aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans cette émission, il y a quand même un élément important que nous ne pouvons pas, on ne peut pas matérialiser ou bien toucher. C'est cette condition, donc je peux dire cette condition de travail, la paix qui nous permet d'être dans cette salle. S'il y a la violence ici, qui va suivre cette émission? Vous pouvez avoir des minéraux, des ressources, mais s'il y a un élément central qui manque, qui est la paix, qui va faciliter la transformation, qui va faciliter le travail ou les services, c'est difficile. Moi, je pense, la question de paix, quel que soit le problème que nous traversons aujourd'hui, il est temps quand même que nous tous, nous puissions nous poser la question sur la nécessité là, le rôle que chacun de nous doit jouer. Mais moi je sais aussi que le gouvernement a une grande responsabilité dans tout ça. Par exemple, en termes de présence de l'État, parce que vous parlez de restauration de l'autorité de l'État. La fille qui représente les enfants a parlé des questions de protection des enfants. Moi je pense que ça c'est un droit fondamental. Donc l'État a ses obligations pour protéger la population civile. Mais nous sommes, ce qui est sûr, nous devons mettre en tête, nous sommes dans une situation, d'escalade. Il y a des gens, les sangs qui coulent, les conflits sont présents et violents. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc il faut une responsabilité collective. Une responsabilité collective. Je reviens pour dire que nous devons tirer des leçons. Nous devons tirer des leçons. Aujourd'hui, les jeunes que vous êtes, 20 ans, 22 ans, vous n'avez aucune expérience des bons moments de l'Ituri. Vous êtes nés dans les conflits, vous grandissez dans les conflits. Il y a des gens ici qui vont finir leur cycle. Ils ont commencé, ils ont débuté à l'Inibou à partir de 2017 jusqu'aujourd'hui, quand ils suivent la
les
radio,
informations, c'est toujours
c'est
des
toujours tueries. On a tué, on a fait ceci. Vous voyez l'état d'esprit.
Traumatisme.
Vous voyez ça? Ça c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Donc nous débattons cette question de paix dans des conditions de violence.
Alors, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il faut carrément réglementer l'exploitation minière. Monsieur Dieudonné Lolossa, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Dans notre pays, il existe un code minier. Ce code minier, c'est la réponse à toutes ces préoccupations. Mais la grande question, c'est ce qu'a dit Madame Viviane, est-ce que nos textes, nous les respectons? Tout est réglementé dedans. On ne peut, le code minier en RDC n'autorise pas, par exemple, à un étranger de faire l'exploitation artisanale de l'or, par exemple, dans ce pays. Mais c'est ce que nous vivons en Ituri. Nous le vivons à présence de l'État-là. C'est là où nous disons que l'État n'agit pas en Ituri. Je peux continuer avec
d'autres
préoccupations qui étaient soulevées.
Oui.
Il y a également une... autre étudiante, si c'était une étudiante, je crois, une étudiante, bien sûr, qui est de la psychologie, je n'ai pas retenu son nom, a dit qu'il fallait, donc il faut d'abord la population locale puisse apporter de leur pierre pour la paix en Ituri. Je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que le problème que nous avons, personne d'autre ne peut le maîtriser mieux que nous-mêmes. nous connaissons mieux nos problèmes que les autres. C'est comme ça que parmi nous, il y en a qui continuent à dire qu'il n'y a pas de guerre interethnique à Ituri. Bien que les autres pensent qu'à Ituri, il existe des guerres interethniques. Je sais que vous êtes d'accord avec moi, tous ces groupes armés que nous citons ici à Ituri, ils ne se battent pas entre eux. Mais leur cible, c'est la population civile. Il n'y a pas une guerre entre les groupes armés là, entre eux, il n'y en a pas.
Il n'y a pas des affrontements entre eux.
On n'a pas encore enregistré ça, mais vous allez voir ces groupes armés agir sur la population civile. Donc, c'est pour dire que...
Et pourquoi s'acharner sur la population civile?
Voilà, je disais que...
C'est quoi le vrai motif?
Je disais que nous, comme population de l'Ituri, nous devons arriver à dire qui est celui qui nous amène, nous pousse à faire des massacres pareils sur notre population. Parce que la population de l'Ituri, dans ces groupes armés, on constate qu'ils utilisent des armes à feu. On ne fabrique pas des armes à feu à Ituri. Il n'y a pas de magasin des armes à feu à Ituri.
Et comment ils arrivent à avoir ces armes?
Voilà la grande question. Et c'est pour cela que nous disons que l'État doit faire son travail de nous donner la source de provenance de ces armes-là. Parce que c'est sa mission, dans sa mission. La sécurité, les services de sécurité, ils sont là pour ce travail-là.
Mais il semble aussi que ces combattants sont souvent drogués. Ils prennent de la drogue et ils ont des pratiques fétichistes.
Encore, la loi de notre pays n'autorise pas la consommation de boissons fortement alcoolisées ainsi que des drogues et des liqueurs fortes. Ce n'est pas autorisé dans ce pays. Si ça se pratique, c'est la défaillance de l'État.
Monsieur...
Oui, je voulais,
oui,
voulais revenir sur la question qui était adressée à la société civile.
Voilà, la société civile, depuis
oui,
qu'elle est...
Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que l'état de siège, sous l'état de siège, il n'y a que le gouverneur militaire, il n'y a que la société civile. Quels sont les apports de la société civile? Peut-être la question importante à mon niveau, c'est de connaître qu'est-ce que la société civile. Ça doit être ça votre préoccupation. Parce que si vous connaissiez ce que c'est la société civile...
Micro, s'il vous plaît. Voilà.
Si vous connaissiez ce que c'est la société civile, peut-être que vous ne pouvez pas poser cette question.
C'est quoi la société civile?
La société civile est un groupe de pression. La société civile ne pose pas des actes, n'a pas d'action à poser comme le gouvernement... qui doit venir là où il y a le problème avec la force, avec les bateaux. La société civile n'a pas de bateaux. La société civile, dans notre jargon, nous l'appelons un chien de garde. Nous connaissons les chiens. Est-ce que nous connaissons tous les chiens? Que font les chiens?
Les chiens aboient. Quand il y a le voleur.
Voilà. Le chien aboie. Quand le chien voit quelqu'un qui ne connaît pas, les chiens aboient pour alerter son patron. Notre patron, c'est l'État congolais. Quand ça ne va pas, nous sommes là pour crier. Nous sommes pour alerter l'État congolais pour dire qu'il y a danger, qu'il y a un problème. Parce que nous n'avons pas assez de force, nous n'avons pas ce pouvoir d'agir comme l'État qui a tout le moyen et le droit d'agir. Et je crois que c'est ce que nous faisons. Nous avons fait plusieurs rencontres avec les différentes couches de la population de l'Ituri. Chaque fois, à l'issue de ces rencontres, nous sortons avec des recommandations au gouvernement. Ces recommandations doivent être mises en application par l'État congolais. Et souvent, c'est là où on n'a pas de solution.
Bien.
Donc, je crois que c'est ça.
On va parler de ces recommandations dans la deuxième partie qui va commencer tout à l'heure dans 5 minutes.
Mais par rapport au mécanisme de protection des affaires aussi, je voulais dire...
D'accord, on va marquer une pause par rapport à la première partie et puis on va basculer dans la deuxième.